Morning Edition from NPR News.
Let's see, he's on the house. I'm
going to go to the
France Inter. Le 18.
Mais quelle mouche a piqué Elon Musk. Voilà qu'il veut se payer Twitter et entend payer cash. Derrière le coût économique, il y a bien plus que ça. On va le voir ensemble. Il y a un homme libertarien, terriblement attaché aux libertés individuelles qu'il entend faire de Twitter une arène ouverte. On verra ce que ça veut dire, si ça veut dire aussi le retour du compte de Trump, par exemple. On y vient tout de suite. Le bruit du monde, ce sont les notes vocales de Caroline Gillet en longueur et hebdomadaire désormais, avec Daria qui est en Belgique, avec Lydia qui est restée à Kiev. Le bruit du monde, la suite, sous les radars, Sébastien Logeni a trouvé des manifestations contre des groupes d'extrême droite en Suède. Taïwan qui édite un manuel de survie à usage d'une invasion chinoise. Et Israël qui veut remplir le lac Tibériade d'eau dessalée. 18h50, c'est le monde selon Joe Biden et le Kentucky désormais totalement contre l'avortement. 18h55, le monde d'après de Jean-Marc Four et le silence de Modi face aux manifestations anti-musulmanes en Inde. Le monde est vaste et on n'a qu'une heure. Bonsoir.
Fabienne Sintès. Un jour dans le monde.
Bonsoir Emmanuel Botta.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous. Vous êtes rédacteur en chef adjoint du service éco de l'Express. Elon Musk est l'un de vos sujets favoris, j'allais dire c'est votre terrain de jeu favori. Vous êtes en train d'écrire un livre d'ailleurs à ce sujet. En apprenant la nouvelle du rachat potentiel donc de Twitter par Elon Musk en fin de semaine dernière, les béotiens comme moi se sont dit allons bon, qu'est-ce qui se passe? Voilà que ce milliardaire veut se payer le réseau social. D'abord, purement en chiffres, on sait bien qu'il est richissime, mais plus que richissime ce monsieur, mais est-ce qu'il peut vraiment se payer d'un claquement de doigts un réseau social évalué à 43 milliards?
Alors, d'un claquement de doigts, peut-être pas, mais potentiellement, il a une fortune estimée à 243 milliards, je crois, 247 pour être exact.
Sauf qu'il est riche de ses actions, quoi.
Voilà, effectivement. Donc, c'est pas 247 milliards sur son PER.
Exactement.
Si je puis dire, mais dans l'absolu, il pourrait, effectivement, ça lui prendra un petit peu de temps, mais il pourrait tout à fait racheter la globalité de Twitter. Donc, pas d'un claquement de doigts, mais il pourrait le faire. Encore faudrait-il que la direction de Twitter accepte, et j'imagine que vous avez vu effectivement qu'ils ont mis la clause dite de pilule empoisonnée.
Alors vous allez nous raconter ce que c'est que la clause de pilule empoisonnée. Ouais. Mais justement, est-ce qu'on peut, alors on va venir à cette pilule empoisonnée, est-ce qu'on peut faire une offre d'achat hostile comme ça, en essayant de s'appuyer sur les actionnaires en dépit du conseil d'administration? C'est possible,
bien
ça
sûr,
ça existe?
Bien sûr. Il a déjà fait une offre avec un bonus, je crois que c'est plus 25 ou 30% au-dessus du prix de l'action aujourd'hui. Donc, moi, petit actionnaire, je peux me dire, je vais gagner 30%, je vais lui vendre sans aucun souci. Donc, évidemment, ça peut se faire sans l'aval du conseil d'administration. D'où cette pilule empoisonnée qui fait que s'il arrive à 15%, effectivement, ils multiplieront les...
Alors, racontez-nous comment ça marche, parce que moi, j'ai pas bien compris la pilule empoisonnée.
Je vais essayer de faire court et pas trop technique, parce que c'est un jargon un peu financier. Mais l'idée, là, effectivement, c'est... Aujourd'hui, il a acheté à peu près 9% du capital de Twitter. Si demain, il monte à 15%, ce qui pourrait se faire très très vite, à ce moment-là, le conseil d'administration a décidé qu'il recréerait d'autres actions qu'il vendrait en priorité et moins cher aux actionnaires actuels. Qu'est-ce que ça ferait? Ça ferait que ce serait beaucoup plus complexe pour Elon Musk de racheter, et surtout beaucoup plus cher. Mm-hmm.
Et lui, est-ce qu'il a déjà fixé une limite au-delà de laquelle il ne va pas? Ou est-ce qu'on se dit, dans l'état d'esprit où il est, de toute façon, il veut se payer le réseau social, et vu l'argent qu'il a, comme vous dites, il ira très haut s'il le faut?
On ne sait pas, mais ce qui est certain, c'est que ce n'est pas le genre d'homme à abandonner. Il n'a jamais lâché dans toutes les affaires qu'il a eues, et pourtant ça a été souvent très limite. Il a effectivement une fortune colossale. Et il a déjà dit d'ailleurs qu'il avait un plan B. On ne sait pas lequel c'est, mais il a déjà dit, en réaction à cette fameuse pilule empoisonnée, qu'il avait un plan B qu'il actionnerait.
Mais du coup, à quel moment Twitter est obligé de dire: ok, je m'incline, donc je suis à vendre et voici mon acheteur?
Ah ben, à un moment où vous devenez l'actionnaire principal, c'est déjà le cas, normalement vous pouvez avoir un poste au conseil d'administration, ce qu'il a refusé, et puis quand vous dépassez les 51%, vous devenez maître à bord, et lui veut aller à 100%, et vous pouvez débarquer l'intégralité du conseil d'administration, ce qui sera certainement, je pense qu'effectivement s'il arrive à aller jusqu'au bout de son idée, c'est une évidence que l'actuelle direction, qui n'a cessé de critiquer ces dernières semaines, sera débarquée immédiatement. Donc, c'est ce qu'il fait à chaque fois, d'ailleurs.
Il débarque tout le monde, il en fait une entreprise purement privée qui échappe
à toute
forme de contrôle, y compris le sien, d'ailleurs, et il est seul maître à bord. C'est à ça que ça va ressembler, en fait.
C'est un peu ça l'idée, effectivement, comme vous le disiez dans le lancement, c'est quelqu'un de profondément libertarien. C'est-à-dire que moins le corset de l'État est serré, et mieux ça lui va. Effectivement, pour revenir sur Donald Trump, c'est une évidence que s'il avait été patron de Twitter pendant les élections présidentielles américaines, le compte de Donald Trump n'aurait pas été supprimé. Mmh. Parce qu'il pense que lui, tout doit être dit. Et que c'est aux gens de se faire un peu ensuite leur avis derrière.
Alors, on va y revenir dans un instant. Moi, je suis intriguée sur le pourquoi maintenant, en fait. Est-ce que c'est parce qu'effectivement, Twitter, en termes d'influence, c'est énorme, mais en termes d'argent, c'est pas grand-chose, en fait, par rapport à Facebook. Il paraît même, en préparant cette émission, même par rapport à TikTok, je me suis rendu compte.
Oui.
Est-ce que c'est pour ça que c'est maintenant le moment? Pourquoi pas dans 6 mois ou il y a 6 mois?
Ça aurait pu être il y a 6 mois, mais je pense que là, il est en train de se dire effectivement que l'objet Twitter, c'est la caisse de résonance mondiale. Il n'y a pas d'équivalent. C'est comme si c'était 50 fois le New York Times, peut-être. Ça vaut finalement pas très cher. Alors, ça paraît énorme, 43 milliards, mais si on compare aux 600 milliards de capitalisation de Facebook, c'est rien. Et surtout, ça ne demande qu'à être monétisé. En fait, ça a été assez mal, très peu monétisé d'ailleurs, contrairement à Facebook qui a très bien pris ce virage. Donc, je veux dire, c'est un joyau à polir. Et lui, c'est ça qu'il voit. Et en plus, effectivement, là où avant, j'allais dire, les milliardaires de l'ancien temps s'achetaient un journal, lui, il s'achète Twitter, qui est finalement une extension de la communication, quoi.
Et qui est fragile, non? De toute façon, enfin, je pense à Jack Dorsey, qui a été son fondateur, qui est parti, puis qui est revenu, puis qui est parti aussi.
Oui.
Elle a du mal à... Est-ce qu'elle a une vraie identité, au fond, cette entreprise? Est-ce que c'est pas ça qui la rend aussi fragile?
Elle a une identité, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est elle, aujourd'hui, qui est la caisse de résonance de tous les mouvements sociaux et sociétaux. Enfin, évidemment, on pense à MeToo, mais en fait, même nous, journalistes d'ailleurs, une des premières choses qu'on fait, c'est d'aller sur Twitter pour voir, effectivement, qu'est-ce qui fait le buzz en ce moment, mais elle est fragile parce que le modèle économique n'est pas très clair. C'était une volonté de Jack Dorsey qui, lui, pour le coup, était assez à gauche, et qui ne voulait pas justement que ça devienne un Facebook et que ça soit totalement assujetti à la publicité. Mais il faudra bien trouver à un moment un modèle payant, quoi.
Alors, on a bien compris effectivement que c'était pas l'argent. Enfin, d'ailleurs, il l'a dit lui-même. Et effectivement, il y a pas. D'ailleurs, elle fait des bénéfices finalement, cette entreprise, ou pas encore?
Elle commence doucement à en faire,
une dizaine d'années, elle en fait à peine.
Ouais.
On a bien compris que c'était pas l'argent, en fait, qui le motivait. Effectivement, c'est toute la politique qui a derrière. Est-ce que c'est lui tout seul, ou est-ce que il est poussé et influencé par ses amis républicains, dont on se souvient qu'ils avaient dit, lorsque les comptes Twitter ont été fermés, les comptes de Donald Trump ont été fermés, qui ont dit qu'il était le dernier espoir, en fait. Donc, est-ce qu'il est poussé derrière, ou est-ce qu'il y va tout seul?
Moi, ma grille de lecture, c'est qu'il y va tout seul, et je suis pas sûr qu'il soit républicain. Moi, je pense que c'est quelqu'un de profondément apolitique, mais surtout de profondément pragmatique. Il faut rappeler qu'il a notamment une autre entreprise qui s'appelle SpaceX, donc c'est des lanceurs de fusées pour aller mettre des satellites, et le premier client de SpaceX, c'est la NASA. C'est-à-dire que quand c'est sous Trump, mais il soutient Trump, parce que Trump décide de ses contrats. Aujourd'hui, c'est Biden. Il est, entre guillemets, pas pro-Biden, mais il va se rapprocher de Biden. C'est quelqu'un de pragmatique. Je crois vraiment pas qu'il soit... Enfin, en tout cas, il a jamais eu un positionnement clair sur le plan politique. Je pense vraiment que lui, c'est... Je vais là où mes intérêts vont, quoi.
Et en même temps, il a fait déménager toutes ses usines qui étaient en Californie, qui sont maintenant au Texas.
Oui.
Alors, effectivement, il le fait peut-être pour des raisons financières, parce que les impôts au Texas,
évidemment,
au fond, voilà. Mais aussi parce qu'il est dans cette espèce d'environnement démocrate en Californie, qui lui convient bien moins.
Oui. Mais là, effectivement, je sais pas, c'est moins, encore une fois, le côté démocrate que le côté corsé. Corsé de règles. Effectivement, en Californie, les règles sont assez serrées. Enfin, et au Texas, c'est un peu l'image qu'on peut avoir. C'est pas le Far West, mais tout est encore possible. C'est pour ça qu'il a notamment installé sa Starbase, là où effectivement il construit des fusées qui sont censées aller dans un temps un peu plus lointain sur Mars.
Alors, qu'est-ce que ça veut dire quand il dit qu'il veut créer une arène de liberté d'expression totale? Donc, ça veut dire le retour du compte Twitter de Donald Trump, probablement, effectivement,
probablement.
Ou des choses de ce genre-là. Mais il dit aussi que l'algorithme doit être en open source. Qu'est-ce que ça veut dire, en fait? Qu'est-ce qu'il veut en faire de cet outil?
Ce qu'il voudrait, lui, c'est qu'en fait, tout le monde puisse développer, upgrader, alors c'est pas un joli mot, augmenter, on va dire, en permanence le logiciel de Twitter pour le faire évoluer. Parce que lui, par exemple, une de ses marottes, c'est pas le seul, mais c'est de mettre un bouton edit au Twitter qui permettrait, en fait, une fois que vous avez envoyé votre tweet, de le rattraper et de le modifier. Alors, parfois, parce que juste vous avez fait une faute d'orthographe horrible, et c'est terrible, mais on pense plutôt à des hommes politiques qui font des petits dérapages, et une fois que c'est retweeté, c'est terminé, vous prenez le contrôle. Donc lui, il pense qu'il faudrait mettre ce petit bouton-là. Mais on peut imaginer plein d'autres fonctionnalités. Et ça, pour le coup, on revient sur l'aspect libertarien, quoi. Tout le monde doit pouvoir intervenir dans un outil qui est finalement un outil ouvert et mondial.
Mais tout le monde intervenir. Moi, je pourrais pas intervenir sur vos tweets, par exemple.
Je pense à la partie de développeur pour essayer effectivement d'améliorer en fait en continu le logiciel de Twitter.
Mais quel est son intérêt à lui, et je pense à Trump, mais aussi à d'autres, qu'on puisse revoir sur ce réseau social des choses qui sont entièrement fausses, qui sont parfaitement inventées, qui sont du domaine du complotisme, etc. Est-ce que c'est là qu'il place la liberté auquel il tient tant, dit-il ?
Je crois vraiment qu'effectivement, comme son idée, c'est la liberté doit être totale ou ne pas être. Il n'y a pas de juste milieu pour lui. Et la liberté totale, c'est aussi effectivement la liberté de raconter n'importe quoi, d'avoir des délires complotistes, d'harceler les gens, parce qu'on voit aussi beaucoup ça sur Twitter. Lui, pour lui, en fait, c'est un peu perdre ses profits, quoi. Effectivement, la liberté, c'est aussi ça.
Donc c'est le symbole de ça, en fait.
C'est ça.
Mais et à la fois c'est énorme, c'est tout ça, mais c'est finalement pas plus que ça, en fait, que ce réseau pour lui.
C'est ça. Alors après, il y a aussi un aspect financier. Hein. Effectivement, il voit bien que la valorisation est encore assez basse, et il voit bien effectivement qu'il pourrait aller beaucoup plus haut et gagner encore de l'argent. Argent qui alimenterait effectivement son projet martien, parce qu'il y a aussi ça aussi qu'il faut avoir toujours en tête, c'est que l'objectif vraiment absolu d'Elon Musk, c'est la conquête spatiale. Et pour alimenter sa conquête spatiale, il lui faut de l'argent, quoi.
On a l'impression qu'en fait, c'est Elon Musk tout seul contre les États, même, j'allais dire, puisque tous les États sont en train d'essayer de légiférer à minima pour certains, un peu plus pour d'autres. C'est notre cas, par exemple, autour de réseaux sociaux comme celui-là. C'est ça la bataille qu'il veut, Elon Musk. Il veut livrer cette bataille-là. Son jouet, c'est cette bataille-là, au fond.
C'est derrière. On peut imaginer qu'il y a ça, effectivement. C'est aussi il y a plusieurs choses chez lui. Il y a un côté un peu geek potache, c'est-à-dire qui aime bien pirate, même plutôt, c'est-à-dire qui aime bien titiller et aller se frotter et aller contre les États, en plus qui pendant longtemps, enfin les pouvoirs politiques qui l'ont pendant longtemps pris pour un sympathique geek milliardaire, mais qui a été un petit peu délirant. Est-ce qu'après il y a aussi une volonté de bousculer le pouvoir étatique? Oui, c'est en tant que libertarien, lui il y aura toujours trop d'État, quoi. Donc aller prendre un outil effectivement et le décorseter totalement au moment où les États, l'Europe notamment, se dit il faut qu'on légifère, il faut qu'on recadre, qu'on resserre, ça fait sens, ouais.
Mais tous les réseaux sociaux, à commencer par Facebook d'ailleurs, mais Twitter également, ont été rattrapés par la patrouille. En fait, je suis sûr que Zuckerberg, il en rêve de ça. C'est ce qu'il voulait au début. Son modèle, tout ouvert. Et puis, il a été rattrapé par la patrouille parce qu'il y a eu un certain nombre de scandales et obligé de revenir en arrière. Comment est-ce que Twitter pourrait échapper à ça sous Elon Musk?
Aux États-Unis, il faut voir aussi effectivement. Aux États-Unis, je pense qu'on peut imaginer que le cadre reste relativement souple. Après, il peut toujours y avoir des procès, de harcèlement, des choses comme ça. En Europe, ça semble plus compliqué parce qu'on voit bien que la Commission européenne travaille beaucoup là-dessus, effectivement, sur trouver un cadre qui fasse qu'effectivement on peut pas harceler les gens et s'en sortir de manière, enfin, être impunément un harceleur. Il y a aussi toujours le problème de l'anonymat aussi, qui fait qu'effectivement on peut se cacher derrière 10, 15 comptes. En Europe, je pense que ça sera quand même compliqué pour lui d'imposer son modèle de liberté totale pour le réseau social Twitter. Ça, à mon avis, il se heurtera au mur bruxellois.
Vous disiez que effectivement c'est une entreprise Twitter qui cherche encore son modèle au fond, même si on compare à Facebook ou à TikTok. Les contenus haineux, quand ils commencent à se multiplier, est-ce que ça fait pas reculer les annonceurs aujourd'hui, parce qu'encore une fois c'est pas dans l'air du temps. Donc pour aller chercher le modèle en fait qui fera de l'argent, intuitivement j'ai envie de me dire il est en train de se tirer une balle dans le pied. En fait
moi je crois que la principale limite, elle est moins étatique que publicitaire. Effectivement, c'est qu'à un moment les marques, ce qui est arrivé sur Facebook, refusent d'être associées à un média qui fait de la propagande pour des thèses délirantes ou qui facilite le harcèlement. Et effectivement, Elon Musk est un pragmatique. S'il voit que son idée d'un modèle totalement ouvert, libertarien, où tout le monde peut dire tout et n'importe quoi, va à l'encontre de ses intérêts financiers, je pense qu'il finira par reculer. Mais ça peut être aussi quelqu'un d'un coup, c'est-à-dire qu'il peut racheter Twitter, il fait grimper la valorisation, parce que rien que son nom fait grimper la valorisation, parce que tout ce qui touche se transforme plus ou moins en or, et puis le revend dans 3-4 ans. Il y a aussi cette possibilité-là, on n'en parle pas, mais ça peut être juste un coût financier, tout simplement.
Donc juste un coût économique basique. Est-ce que, et là peut-être qu'on rêve, parce qu'on l'a vu à peine bouger sur Facebook, est-ce que s'il le rachetait, et s'il allait dans la direction qu'il veut, c'est-à-dire quelque chose de très ouvert, qui peut aller dans n'importe quels abus aussi, est-ce que ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent quitter ce réseau, par exemple, et que ça
c'est
aussi, ça entre en ligne de compte.
C'est un des risques, effectivement. Hein, c'est qu'il y a aussi des gens qui peuvent se dire non, en fait, moi, je trouvais ça déjà très borderline, je cautionne pas, et surtout, je ne veux pas être la source, être harcelé en permanence. Donc, ça peut, on peut imaginer qu'il y a la création, du coup, par effet rebond, d'autres réseaux sociaux.
Et je vous entends parler, Emmanuel Botta, il y a tout ce que vous venez de dire, donc on ne sait pas, peut-être qu'il y a des gens qui vont effectivement partir, économiquement parlant, parce que les annonceurs peuvent partir, ça peut être peut-être un peu dangereux. Il y a le prix qu'il a fixé de 54,20 dollars, avec toujours donc le 4,20 qui est le joint de 4h20, enfin une espèce de chose qu'on revoit toujours dans l'histoire d'Elon Musk. On se dit que tout ça, à la fois, semble très sérieux et très barré, en fait.
En fait, vous avez très bien résumé le personnage. C'est Elon Musk, c'est ça. C'est l'homme qui a fait des Tesla la voiture électrique la plus vendue au monde, qui fait des lanceurs de fusées, qui a co-créé PayPal, etc., et qui a encore plein d'autres entreprises. Et en même temps, c'est le même qui va faire des blagues potaches sur Twitter, par exemple, qui va défier Poutine en combat à main nue pour décider du sort de l'Ukraine. Ou qui va faire des photomontages dignes d'un ado de 15 ans. Musk.
Ça veut dire que ça peut s'évanouir, ça. Demain, si ça se trouve, c'est fini. Finalement, ça m'intéresse plus ce jouet, en fait.
Il est comme ça. Il voulait sortir Tesla de la bourse.
Et il a échoué.
Et il a échoué parce que là, pour le coup, effectivement, il a été rattrapé par la patrouille. Et les choses ne sont pas si simples que ça. Il y a quand même aux États-Unis, un certain nombre de règles. Mais il est comme ça, ouais. Il peut. Il y a des jouets qu'il peut prendre. Et puis à un moment, ça le fatigue. Il passe à autre chose. Il était beaucoup sur Bitcoin. On l'entend moins maintenant.
Et ça veut dire que qu'est-ce qui va se passer là maintenant, en fait, et ce sera la dernière question, la suite, en fait, de ce rachat, peut-être, l'évolution, ça ressemble à quoi? L'étape suivante doit être quoi?
On va déjà voir les prochains jours ce qui va se passer. Est-ce qu'il va abandonner? On peut aussi imaginer ça, il va se dire, bon, ça me coûte trop cher, de toute façon, vu que le cours a déjà monté, j'ai gagné de l'argent. Soit, je ne sais pas quel est son plan B, mais encore, il va combattre et il finira par racheter Twitter et faire tomber l'ensemble du conseil d'administration, et là on découvrira un nouveau Twitter qui sera encore plus ouvert qu'aujourd'hui, donc forcément avec encore plus de messages haineux, de propos délirants. Puis après, il y a toujours la question de l'algorithme, c'est comment est-ce qu'on règle cet algorithme? Est-ce que ça sera comme Facebook il y a quelques années, où on voyait bien qu'effectivement ce qui remontait en permanence, c'est ce qui faisait le buzz, et ce qui fait le buzz, c'est évidemment rarement les choses les plus intelligentes.
Voilà. Donc ça peut être une catastrophe totale.
Ça peut être assez catastrophique. Catastrophique sur le plan de la communication et du bien-être, j'allais dire, des gens qui sont sur Twitter.
Voilà, allez savoir. Ou alors, il peut y avoir un cercle vertueux, subitement, précisément, parce que ça ne marche pas. Bah, vous reviendrez pour nous le raconter, Emmanuel Botta, ce sera avec grand plaisir.
Merci.
Merci beaucoup, merci de votre passage chez nous.
Le 18-20, Fabienne Saintès. Sur France Inter.
La suite ce soir, ce sont les notes vocales d'Ukraine de Caroline Gillet. On va quand même parler fête de Pâques avec Daria qui est en Belgique désormais, avec Lydia qui est toujours à Kiev. Des notes vocales désormais hebdomadaires, ce sera tous les lundis. Et pour aller jusqu'à 19h, sous les radars, Sébastien Legénie.
On ira en Suède où un groupuscule d'extrême droite entend brûler des Corans en public. Résultat, 4 jours d'émeutes dans les quartiers à forte population immigrée.
Le monde de Joe Biden et Loïc Loury avec nous depuis New York. Bonsoir Loïc.
Bonsoir Fabienne. Le Kentucky devient de facto le premier État américain à bannir complètement l'avortement.
Le monde d'après, c'est vous Jean-Marc Faure. Bonsoir Jean-Marc.
Bonsoir à tous. En Inde, c'est silence radio. Le pouvoir nationaliste de Narendra Modi ne dit strictement rien après les affrontements interreligieux de ce week-end et ce silence est terrifiant.
Allez, à tout de suite tout le monde. Le tour de la planète n'est pas fini. Il fait un drôle de détour vers Porto Rico avec José Feliciano qui chante Light My Fire des Doors. C'est une reprise 2 ans après l'original en 66. Et c'est Djoubaka qui est responsable de ça, le programmateur de Un jour dans le monde.
You know that it would be untrue. You know that I would be a liar if I was to say to you, yeah,
girl, we couldn't get much higher. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on fire. The time for hesitation is through. There's no time to wallow in the mire. Darling, we could only do. And our love become a funeral fire. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on fire. All
А чого дельфіна носить за вами кошик?
Les notes vocales d'Ukraine de Caroline Gillet sont fidèles au poste en longueur désormais chaque lundi. Bonsoir Caroline.
Bonsoir Fabienne.
Les notes vocales d'Ukraine, c'est donc le journal de bord sonore d'une dizaine d'Ukrainiennes et d'Ukrainiens qui racontent avec leur téléphone ce conflit qui ne baisse pas en intensité. La preuve, les bombardements sur Lviv hier soir tout à l'ouest. Mais après 7 semaines de guerre, il y a des festivités aussi comme celle de Pâques qui apportent un peu de réconfort à Kiev, où on ira, Caroline, dans un tout petit instant, ou pour Daria, qu'on suivait déjà la semaine dernière et qui arrive enfin donc en Belgique.
Oui, avec ses 2 petites filles mais sans son mari qui est resté en Ukraine pour être potentiellement mobilisé. Daria avait raconté la traversée jusqu'à Liège où une amie, Delphine, est venue la récupérer dans un centre de réfugiés. Elle est hébergée chez elle, elle s'installe tout doucement. Elles ne sont pas loin d'une ferme, il y a des chiens, c'est calme et reposant. Même si Daria refuse de désactiver les notifications d'alerte aérienne, vous allez l'entendre, voilà une compilation des messages qu'elle a envoyés depuis leur arrivée. Et jusqu'à hier.
Je viens de recevoir de nouveau une alerte aérienne pour Kiev. Je ne veux pas me débarrasser de cette application. Au contraire, je pense que ça me permet aussi de garder le lien avec ma ville. Voilà. Donc là, c'est déjà le soir. Les filles, elles parlent tout le temps de leur papa. C'est un moment un peu difficile. Et je ne peux espérer qu'on va se retrouver avec lui et que ça se passera assez vite. On est en contact, bien sûr, on a tout ce qu'il faut pour communiquer. Voilà. Allô, tu entends? Non, je
l'entends,
mais il pleut comme d'habitude. Enfin, elle sait qu'en Belgique il y a beaucoup de pluie, et donc elle dit que là maintenant il pleut comme d'habitude en Belgique. Et elle me demande si les filles commencent à apprendre le français. J'ai oublié les mots nouveaux qu'elle a appris.
Tu as trouvé ça? C'est un chocolat? C'est chocolat?
Voilà, donc on fait la chasse aux œufs ici dans le jardin. C'est Delphine, mon amie, qui a tout préparé. Là, c'est pas vraiment une tradition ukrainienne. Normalement, on fait pas ça en Ukraine. Nous, dans notre famille, parfois, on faisait des trucs semblables. On leur préparait des petits cadeaux. Dis,
je leur souffle un petit cobrage dans mon cropova. Tu veux, je te. Треба скрізь шукати.
Bon, j'espère qu'on n'a pas oublié tous les endroits où on les a cachés. Oui, les chiens.
Les fêtes de Pâques et le dimanche des rameaux qui étaient célébrés aussi hier à Kiev par Lydia, dont le mari et les deux fils sont engagés volontaires. On l'a déjà entendu ici, Lydia, elle a appris hier qu'un de ses fils repartait au front. Elle les attend tous les trois dans son appartement. Lydia est paroissienne depuis 30 ans d'une église au centre de la capitale qui a réouvert enfin il y a 3 semaines et où on célébrait hier la première grande messe depuis le début de la guerre.
La messe va bientôt commencer. Ça, c'est la dernière prière qui ne fait pas partie de la liturgie depuis 30 ans dans mon église. C'est la prière pour l'Ukraine. Aujourd'hui, c'était la première messe solennelle depuis que la guerre a commencé, parce que même le 7 avril, la fête d'Annonciation, on n'a pas pu avoir une vraie messe solennelle. Donc, c'était émouvant, donc, parce qu'il y avait des paroissiens que j'ai vus la première fois depuis que la guerre a commencé, et même le prêtre a pleuré à la fin de son sermon.
Ce que j'ai appris, c'est que ce sont les paroissiennes et les paroissiens qu'on entend chanter, dirigés par une chef de chœur professionnelle. Ils ont repris eux aussi les répétitions il y a seulement 3 semaines. C'est très beau.
Et merci beaucoup. Merci à Daria, merci à Lydia et à vous aussi, bien sûr, Caroline Gillet. On vous retrouve lundi prochain. Et sous les radars, Sébastien Logeni, nous sommes en Suède, où des émeutes ont éclaté la semaine dernière contre un groupuscule d'extrême droite.
Oui, cela fait 4 jours que la Suède est secouée en effet par de violents affrontements entre la police et les jeunes des quartiers, abritant une forte communauté musulmane, des échauffourées qui ont fait 40 blessés, 26 parmi les policiers, 14 parmi les manifestants. Jets de pierre, voitures de police incendiées, tirs de sommation, les images tournent en boucle sur les télévisions. Ambiance très anxiogène sur le plateau de la télé suédoise. Alors, à l'origine de ces flambées de violence, il y a un nom, Rasmus Paludan, à la tête d'un groupuscule d'extrême droite appelé Ligne Dure. Il est connu dans toute la Scandinavie pour ses provocations anti-islam. En Suède, Rasmus Paludan avait prévu de brûler des Corans dans des quartiers immigrés. Et c'est ça qui a soulevé la colère des jeunes habitants. Pour le moment, ces actions, ces rassemblements ont été annulés par les autorités. Rasmus Paludan n'en est pas à son coup d'essai. Ce Danois pratique les autodafés de Corans depuis 5 ans sur YouTube. Des Corans parfois entourés de bacon, des vidéos regardées des centaines de milliers de fois. Au Danemark, il a fait 1,8% aux législatives et il cherche maintenant à s'implanter en Suède où il a acquis la citoyenneté il y a 2 ans. Face à lui, le gouvernement suédois évolue sur une ligne de crête. La première ministre défend la liberté d'expression, condamne toute violence et met en garde les manifestants anti-Paludan que c'est exactement ce que recherche ce prêcheur de haine, provoquer des violences et monter les uns contre les autres.
Taïwan publie, Sébastien, un manuel de survie en cas d'invasion.
Oui, c'est un petit guide de 28 pages destiné aux civils intitulé « Manuel d'urgence en cas de crise militaire ou de catastrophe naturelle » pour apprendre aux Taïwanais à se comporter en cas de guerre avec la Chine. Comment trouver des abris anti-bombes avec son smartphone, comment reconnaître les différentes sirènes d'alerte aériennes, comment se constituer une trousse de premier secours. Taïwan est en effet sous la menace de Pékin depuis des décennies. Et la guerre en Ukraine est donc venue raviver les craintes de la population et de l'exécutif. On entend là la présidente taïwanaise Tsai Ing-wen lors d'une visite à l'armée de l'air. Vous assumez, dit-elle aux soldats, des responsabilités plus lourdes dans cette situation mondiale et avec l'expansion de l'autoritarisme. Vos entraînements de préparation au combat permettront à nos citoyens d'avoir davantage confiance en nos militaires, mais permettra aussi au monde entier de voir notre détermination à défendre notre nation. Voilà, les choses sont claires. Pas question de se laisser intimider par le voisin chinois, même si Pékin se fait plus discret depuis l'invasion russe. Taïwan en profite pour en montrer ses muscles. Il y a un mois, des centaines de réservistes de l'armée taïwanaise se sont ainsi entraînés au tir.
Israël, Sébastien, veut remplir le lac de Tibériade avec de l'eau dessalée.
C'est un défi quasi biblique, Fabienne. Le lac de Tibériade, en effet, celui sur lequel Jésus est supposé avoir marché selon la tradition chrétienne, eh bien ce lac est en train de se vider à vue d'œil à cause des sécheresses de plus en plus intenses et d'une exploitation illégale des eaux du lac par les agriculteurs israéliens et palestiniens. Or, ce lac est une des réserves d'eau essentielles pour l'État hébreu. Le gouvernement israélien s'est donc lancé dans un projet titanesque, remplir le lac avec l'eau de la mer Méditerranée désalinisée, et Israël est en effet un champion en la matière. On entend là le PDG d'une usine au nord d'Israël. La désalinisation, ça veut dire transformer l'eau de mer en eau potable. Et pour passer d'une vague à un verre d'eau, dit-il, ça nous prend environ en tout 90 minutes. Et dans ce domaine, Israël est un leader mondial. En 15 ans, l'État hébreu est même passé du manque d'eau à une abondance d'eau. Et ce sont ces surplus d'eau douce qui vont être utilisés pour remplir le lac de Tibériade grâce à un réseau très complexe de canalisation, de stations de pompage. Les opposants au projet y voient un gâchis écologique et surtout côté palestinien, on dénonce un partage très injuste des sources d'eau dans la région. C'est toujours Israël, en effet, qui contrôle les principales sources palestiniennes en territoire occupé juste au pied du lac de Tibériade.
Sébastien, le génie et l'info sous les radars, merci beaucoup. À demain, bien sûr, vous partez avec Jack White. Shedding My Velvet, il vient de Détroit, USA, vers nous et vers un jour dans le monde sur France Inter. Jack White, Shedding My Velvet sur France Inter. De Détroit, nous restons aux États-Unis, à New York, où nous attend Loïc Loury.
France Inter, un jour dans le monde.
I pledge to be a president who seeks not to divide, but unify.
Le Monde, selon Joe Biden, Loïc, où la bataille autour de l'avortement est lancée avant une décision de la Cour suprême très attendue cet été. Avantage au camp conservateur avec des restrictions qui se multiplient dans de nombreux États. C'est le cas du Kentucky, premier État dans les faits à bannir complètement l'IVG.
Oui, absolument. Un État très conservateur qui avait voté largement en 2020 pour Donald Trump et qui vient donc de réduire drastiquement le droit à l'IVG avec effet immédiat. La procédure est dorénavant interdite après 15 semaines de grossesse, y compris en cas de viol ou d'inceste. Les médecins, eux, sont soumis à de nouvelles restrictions. L'obligation, notamment d'obtenir le consentement écrit d'un parent si la procédure concerne une mineure et de verser au dossier des informations qui relèvent pourtant du privé. La patiente a-t-elle déjà été enceinte, a-t-elle été testée positive à une MST, les deux dernières cliniques de l'État, faute de pouvoir suivre les consignes, ont tout simplement arrêté de pratiquer l'IVG. Karen Berg, une élue du Sénat du Kentucky, s'est exprimée lorsque la loi a été votée la semaine dernière.
Je suis ici la seule femme à prendre la parole et le seul médecin. Cette loi est une imposture médicale. Ce que vous êtes en train de faire, c'est mettre un revolver sur la tempe des femmes. Vous tuez des femmes parce que les avortements ne s'arrêteront pas.
Voilà un texte qui va obliger les habitantes du Kentucky à traverser les frontières de leur État si elles veulent accéder à l'IVG. Encore faut-il en avoir les moyens. La loi a été immédiatement contestée, jugée inconstitutionnelle. Ce sera à la Cour suprême de trancher. Elle planche déjà sur un cas similaire, Fabienne, concernant le Mississippi. Décision très attendue qui doit être prise d'ici le mois de juin prochain.
Et la plus haute juridiction du pays, Loïc, pourrait bien choisir de soutenir les États conservateurs.
Eh oui, vous savez, grâce à Donald Trump, la Cour penche très à droite. Elle pourrait bien déchirer partiellement ou totalement un arrêt historique, Roe v. Wade, décision de 1973 qui légalise, qui encadre le droit à l'avortement. La décision de la Cour, je le disais, est attendue cet été. Et en attendant, eh bien, les États conservateurs anticipent en restreignant plus ou moins le droit à l'avortement. Une bonne vingtaine d'États à terme pourraient légiférer en ce sens. En réaction, des gouverneurs démocrates font passer au contraire des lois qui renforce le droit à l'IVG. Près de 1900 mesures liées à la contraception, à l'avortement, ont été introduites dans 46 États entre le 1er janvier et le 15 mars dernier. Cette bataille idéologique aux conséquences bien réelles, bien sûr, pour les femmes ne fait que commencer.
Et autre bataille idéologique à la une ce matin aux États-Unis, Loïc, la Floride qui continue de mettre le nez dans les manuels de ses écoliers.
Et oui, plus de 50 livres de mathématiques viennent d'être bannis du cursus de l'an prochain. Ils ne seraient pas conformes à une loi votée récemment. En l'occurrence, la plupart feraient référence à la Critical Race Theory, la théorie critique de la race dont on parle beaucoup ici aux États-Unis. Pour ses promoteurs, c'est un important champ de réflexion sur la façon dont le racisme continue de peser sur la société américaine. Mais pour ses détracteurs, c'est une menace pour le mode de vie des Américains. Ron DeSantis, le gouverneur républicain de Floride, en a fait une affaire personnelle. Il s'exprimait ici sur Fox News.
Dépenser de l'argent public pour apprendre aux enfants que l'Amérique est un endroit pourri est absolument inacceptable. Nous avons des exemples, ce n'est pas une théorie complotiste. On divise les enfants en fonction de leur race. On leur dit que certains sont des oppresseurs, d'autres des victimes. On leur dit que la police attaque des gens en fonction de leur couleur. C'est un poison.
Alors, cette théorie critique de la race n'est pourtant pas au programme en primaire, assure de très nombreux professeurs, et on voit mal comment un livre de maths pourrait en faire la promotion. Les autorités de Floride, d'ailleurs, n'ont donné aucun exemple de livre qui serait en dehors des clous. La Floride, en tout cas, est très active sur ce terrain de l'éducation. Tout cela est très politique. Fabienne, une autre loi tout juste promulguée interdit ainsi toute discussion en classe sur le genre ou l'orientation sexuelle en Floride.
Loïc Loury, avec nous depuis New York. Merci beaucoup, Loïc, et à lundi prochain.
Fabienne Saintès, le 18-20.
Le monde d'après de Jean-Marc Four. Jean-Marc, en Inde, la capitale Delhi a été le théâtre avant-hier de violents affrontements entre hindouistes et musulmans. Et le pire pour vous, c'est que le pouvoir ne dit rien. Le pays s'enfonce dans le communautarisme religieux et le gouvernement nationaliste de Narendra Modi est en grande partie responsable, et c'est votre monde d'après.
La scène se passe avant-hier, samedi, à Jahangirpuri, un quartier situé au nord-est de Delhi. Hindous et musulmans y cohabitent sans vraiment se croiser dans des zones séparées. En début d'après-midi, quelques centaines de militants hindouistes pénètrent dans les enclaves musulmanes du quartier. Ils sont aisément reconnaissables, leurs tenues sont de couleur safran, celle des moines. Ils brandissent des drapeaux et des sabres. En ce jour de fête religieuse hindoue et en même temps en plein ramadan musulman, ils provoquent les habitants au cri de « prosternez-vous devant le dieu Ram ». Des dizaines de vidéos en témoignent sur les réseaux sociaux. Ils arrivent devant la mosquée en fin d'après-midi et là, la situation dégénère. Des pierres volent, les affrontements commencent, plusieurs personnes sont blessées, des magasins sont incendiés. Chacun se rejette la responsabilité d'avoir lancé la première pierre. La police intervient très tardivement. Elle arrête 23 personnes, essentiellement des musulmans. Ces dernières semaines, les échauffourées de ce type sont devenues monnaie courante en Inde. Début avril, dans plusieurs provinces du pays, des nationalistes hindous ont également brandi des sabres à l'entrée des mosquées. Ici, des commerçants musulmans se voient bannis. Là, le port du voile devient interdit à l'école. Et il y a 2 ans, il faut le rappeler, des pogroms anti-musulmans avaient déjà fait 54 morts à Delhi.
Et donc, le pouvoir ne dit rien.
Oui, encore, ça c'est dans le meilleur des cas, quand il n'encourage pas les manifestations au nom de l'idéologie hindoutva qui prône la supériorité de l'hindouisme. Que des extrémistes existent, c'est le cas partout, qu'un pouvoir ferme les yeux sur leurs exactions, c'est une autre histoire. En l'occurrence, le Premier ministre Narendra Modi n'a donc pas bronché. Le même jour, samedi, il était accaparé par l'inauguration d'une statue géante en l'honneur du dieu hindou Hanuman. Non seulement il multiplie les décisions qui relèguent les 14% de musulmans du pays au rang de citoyens de seconde zone, mais il laisse faire les plus extrémistes. Et la police mène une enquête à sens unique. Elle parle aujourd'hui d'une conspiration musulmane, ourdie prétendument par les réfugiés étrangers, bangladeshis ou birmans rohingyas. Hier, 13 partis d'opposition ont dénoncé, dans un texte commun, le silence de Modi. Un témoignage éloquent, écrivent-ils, du fait que ces foules armées bénéficient d'un patronage officiel. Un peu plus tôt, Sonia Gandhi, vous savez, la veuve de l'ancien Premier ministre assassiné, Rajiv Gandhi, avait publié une tribune du même tonneau intitulée « Un virus fait rage parmi nous. Une apocalypse de haine, de sectarisme, d'intolérance est en train d'engloutir notre pays », s'insurge-t-elle. Mais Narendra Modi, qui est fort d'une nouvelle victoire électorale récente dans l'état clé de l'Uttar Pradesh, s'en moque éperdument.
Mais alors, le but, c'est quoi?
Alors, il y a sans doute plusieurs buts. Modi n'est d'ailleurs pas un cas isolé. Sa méthode est celle de tous les pouvoirs populistes et nationalistes au penchant d'extrême droite. Premier objectif, gouverner par la division, la polarisation de la société, en soufflant en particulier sur les ressorts religieux ou le rejet des étrangers. Méthode de Viktor Orban en Hongrie contre les migrants musulmans, méthode de Donald Trump quand il était au pouvoir contre les migrants mexicains. Le mécanisme est toujours le même, désigner un ennemi de l'intérieur et donc accorder un blanc-seing à tous les extrémistes et pris de violence. Deuxième objectif, au moins aussi important, dissimuler des échecs sur d'autres sujets, en focalisant le débat uniquement sur les divisions religieuses ou ethniques. En l'occurrence, pour Modi, faire passer au second plan les inégalités sociales, les poussées d'inflation et de chômage, et aussi le bilan dramatique de sa politique contre la pandémie. Selon un rapport de l'Organisation mondiale de la santé sur le point d'être publié, le nombre de morts dans le pays s'élève à 4 millions. Oui, 4 millions, et non les 520 000 officiels, 8 fois de plus. C'est l'un des pires bilans au monde, même rapporté à la population gigantesque de l'Inde, 1,4 milliard d'habitants. Cacher le vrai bilan Covid, le raisonnement vaut aussi, là encore, pour d'autres pouvoirs nationalistes et populistes, le Brésil par exemple. Et une fois élu, ces pouvoirs sont difficiles à déloger. En cultivant les bas instincts de violence, ils déclenchent un engrenage de division et d'affrontement qui les nourrit en retour, comme dans un cercle vicieux.
Le Monde d'après de Jean-Marc Four, tous les soirs, dans Un jour dans le monde. Merci beaucoup Jean-Marc, nous on reste ensemble. Dans un instant, c'est le journal de Jérôme Cadet, puis le téléphone sonne. Merci de passer la soirée avec nous.